La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Bien, maintenant, je vais inviter Justine. Justine, à venir nous lire un texte biblique. Jérémie 29, les versets 11 à 13.
En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.
Bonjour à tous. Merci Michel. C'est un grand plaisir pour moi de revenir à mon église, en quelque sorte, puisque j'ai été membre de cette église pendant 6 années, et de revoir tant de nombreux amis. Ce matin, je ne prêcherai pas sur la liberté religieuse, quand même, de temps en temps, il faut changer, mais je vous invite vraiment à venir cet après-midi. C'est très important d'être là, aussi pour marquer notre attachement à cette liberté. Imaginez simplement que si vous viviez dans un autre pays, vous n'auriez peut-être pas le droit de vous rassembler. Imaginez tous les bienfaits que nous avons grâce à cette liberté, et de temps en temps, il faut dire merci à Dieu pour cette liberté, et merci aussi au pays et aux héros de cette liberté. Grâce à eux, nous avons cette liberté qui nous est si chère. Donc, en venant cet après-midi, vous allez montrer aussi à nos invités que nous tenons à la liberté religieuse. Vous savez, quand on fait des grands rassemblements, quand on a réuni 40 000, 45 000 personnes dans des stades, et qu'on invite des autorités, des ministres, etc., et qu'on leur dit, nous, autorités, des ministres, etc., et qu'on leur dit, nous sommes un peuple qui défendons la liberté religieuse, qui avons toujours défendu la liberté religieuse, et qui voient 40 000 personnes et disent, ah oui, ça c'est vrai, ça se voit, quand même 40 000 personnes. Je ne vais pas dire qu'ils traduisent en élection, en termes électoraux, mais quand même, c'est 40 000 personnes. Mais l'inverse, si on dit, nous, on a toujours été pour la liberté religieuse, elle est importante pour tous, et puis on a 3 personnes à la réunion, ou 4 personnes, quel message on envoie. Alors voyez, au-dessus même du programme, même si, en fin de compte, la conférence que je donnerai cet après-midi ne vous intéresse pas tellement, venez quand même, venez pas pour la conférence, mais venez pour montrer que nous tenons à cette valeur, nous la défendons, nous remercions ceux qui nous ont donné la liberté, et par-dessus tout, nous remercions Dieu pour cette liberté, et nous ne voulons pas la perdre. Alors ce matin, par contre, mon sujet, c'est le plan de Dieu. Et la question, est-ce que Dieu a un plan pour nous? Est-ce que Dieu a un plan pour moi? Est-ce que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous? Évidemment, quand on aborde cette question, le plan de Dieu, ça peut apparaître. Quand on aborde cette question, le plan de Dieu, ça peut apparaître très simpliste. Une religion même simplistique. Une religion du donnant-donnant. Et puis, d'un autre côté, on est obligé de constater que les gens même qui ne croient pas en Dieu se posent la question. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui guide ma vie? Est-ce qu'il y a le destin? Oui, bien sûr, le destin. Vous savez, c'est Cicéron qui écrivait le destin. Le destin gouverne le monde, disait-il. Alors, est-ce qu'il y a une puissance suprême qui agit de manière mystérieuse derrière nos vies? Et c'est la question que beaucoup de gens se posent. Je me souviens, j'ai rencontré pas mal de ministres, d'ambassadeurs et même des présidents, et en discutant de manière plus ouverte, détendue avec eux, en posant des questions, eh bien j'ai été souvent frappé par ce fait que la plupart de ceux qui exercent des responsabilités à un haut niveau ont quelque part l'idée qu'ils ont été choisis. Et même s'ils ne croient pas en Dieu, ils ont du mal à le définir, mais quelque part, ils se disent « j'ai été choisi pour cette grande mission ». Alors évidemment, quand on pose la question « par qui ?», eh bien la réponse souvent c'est « le destin, la destinée ». Vous savez, Voltaire, dans une de ses lettres, écrit « il faut que chacun remplisse sa mission ». Non. Chacun remplisse sa destinée. Alors qu'est-ce que c'est cette destinée ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce destin ? Par contre, vous avez aussi des gens qui pensent différemment, mais qui, là encore, ont l'impression que le monde va dans une direction qui n'est pas la bonne. Mais qui c'est qui le pousse ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je me souviens de cette dame dans le bus à Lausanne, dame d'un certain âge, qui se plaignait parce que la ville n'est plus aussi propre qu'il y a 40 ans. Se plaignait parce que la ville n'est plus aussi propre qu'il y a 40 ans, parce qu'il y a beaucoup moins de sécurité qu'il y a 50 ans. Et alors elle me dit, on ne sait pas où on va, mais on y va sûrement. Ah mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? On ne sait pas où on va, mais qui c'est qui dirige ? Est-ce qu'il y a un directeur derrière ? Est-ce qu'il y a un plan ? Est-ce qu'il y a un plan ? Qui est-ce qui est derrière ce plan, cette puissance ? Alors les philosophes, bien sûr, eux diraient ou avaient dit à l'époque des Lumières que cette mécanique du monde, de l'univers est trop bien construite, il y a derrière un horloger. L'univers est trop bien construite, il y a derrière un horloger. Donc il y a une puissance derrière. Même si on ne croit pas au Dieu de la Bible, il y a une puissance derrière. On se dit, il y a quand même quelque chose derrière. Et puis, vous savez, d'autres vont même plus loin en disant que oui, Dieu existe certainement, mais il n'est probablement pas celui de la Bible. Je me souviens ce qu'avait écrit Rémi Chauvin dans son livre « Le Dieu des fourmis et le Dieu des étoiles ». Il disait « Dieu existe, mais je le soupçonne d'être lunatique ». Est-ce que ce Dieu des fourmis, ce Dieu horloger, ce Dieu des étoiles, est-ce qu'il s'intéresse à nous ? Est-ce qu'il va passer du temps pour se dire « tiens, je vais m'occuper d'un tel ou d'une telle » Est-ce qu'il a un projet pour nous, personnellement ? Avouez que c'est quand même difficile à concevoir. C'est difficile. À la limite, on peut très bien imaginer que pour certains êtres humains, voyez, certains êtres humains, alors il y a une puissance, appelez-le Dieu si vous voulez, qui quand même s'intéresse. S'intéresse à un tel, un tel, un tel. Pas à vous, non, pas à vous, non. Mais par contre à celui-là. Oui, ça, je vais m'intéresser à celui-là. Parce que il y a malgré tout des questions. Il y a malgré tout des hasards qui font qu'on est obligé de se poser des questions. Par exemple, pourquoi le bébé Moïse, dans son panier qui flotte sur le Nil, n'a pas été dévoré par les crocodiles ? Combien de chances Moïse avait-il d'échapper à la tuerie des Égyptiens et ensuite de survivre en flottant sur le bord du Nil ? Et en plus, au même moment où la princesse, qui n'avait pas d'enfant, comme par hasard, se baignait, et non seulement elle n'avait pas d'enfant, mais elle avait envie d'avoir un enfant. Et tout à coup, voilà, un petit bébé qui arrive dans une corbeille. Mais écoutez, il faut quand même le faire. C'est quand même pas le fruit du hasard. Ça fait quand même beaucoup pour être le fruit du hasard. Et passons à d'autres personnages. C'est un personnage biblique, Moïse, mais passons à d'autres personnages. Alexandre le Grand, tout jeune, il a 18 ans, il combat en première ligne. Il devient le plus grand le général de tous les temps. Il est toujours en première ligne, il se bat en première ligne. Pourquoi il n'a pas été tué ? À côté de lui, on tombe. Des milliers sont tués. Il y a des soldats qui arrivent le premier jour de la guerre. Des milliers sont tués. Il y a des soldats qui arrivent le premier jour de la guerre et sont tués. Lui, il passe à travers. C'est quand même étrange. Napoléon sur le pont d'Arcole. On tire dessus, il est sur le pont, il a le drapeau comme on le représente. Les gens tombent à sa droite, tombent à sa gauche. Il est jeune, un jeune général. Aucune balle ne le touche. Il aurait suffi d'une seule balle bien placée entre les deux yeux et l'histoire aurait changé. Et on peut continuer. Récemment, on a parlé beaucoup de Johnny Hallyday. Et dans une de ses interviews, Johnny Hallyday racontait qu'il était allé à New York encore tout jeune. Il avait probablement 18, 19 ans. On lui avait offert un voyage à New York. Et puis de New York, eh bien, il s'est rendu à l'aéroport. Et de l'aéroport de New York, il voulait aller à Nashville, voir les grands musiciens de Nashville. Mais il est arrivé en retard et il a raté l'avion. Il est juste arrivé, la porte était fermée, c'était trop tard pour entrer dans l'avion. Et l'avion s'est écrasé en bout de piste. Il n'y a eu aucun survivant. Mais lui a survécu parce qu'il a raté l'avion. Et parfois c'est l'inverse qui se produit, comme l'histoire de ce passager qui est arrivé en retard le 11 septembre 2001 sur le vol de United 93. Et j'imagine de United 93. Et j'imagine, parce que j'ai pris tellement de fois l'avion dans ma vie, je l'imagine en courant, en priant Dieu peut-être, pourvu que l'avion soit en retard, Il a passé les contrôles et finalement il est arrivé à la porte. On lui a dit, l'avion n'est pas parti. Et il a dû dire, merci Seigneur, l'avion n'est pas parti. Je peux entrer dans l'avion. Il est entré dans l'avion, malheureusement pour lui. L'avion n'est jamais arrivé à San Francisco puisqu'il s'est écrasé en Pennsylvanie, détourné par 4 terroristes. Alors, pourquoi ? Pourquoi cet avion avait-il du retard, spécialement ce jour-là ? Pourquoi lui a réussi à monter dans l'avion ? Et pensez maintenant aux deux tours à New York. Il y a des gens qui ne sont pas allés au travail ce jour-là parce qu'ils avaient une grippe. Ils ont dit non, ce jour-là, je regrette demain, mais aujourd'hui, je ne vais pas au travail. D'autres qui y sont allés alors qu'ils auraient pu ne pas y aller. D'autres qui sont allés visiter les tours à 9h alors qu'ils auraient pu y aller à 14h. Mais ils sont allés à 9h en disant, ben, je vais y aller à 9h. Et ils ont disparu. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Mais pourquoi tout cela ? Est-ce que c'est simplement le hasard, la logique ? Voyez encore, même pour ceux qui ne sont pas très croyants, il y a des tas de questions à se poser. Et c'est Cicéron, encore lui, qui disait, si le destin vous guérit, si le destin doit vous guérir, appelez le médecin ou ne l'appelez pas, vous guérirez. Donc il y a une force suprême derrière qui dirige notre vie. Est-ce que c'est acceptable pour nous ? Est-ce que nous pouvons dire que notre Dieu est ce Dieu comme... celui des philosophes qui va choisir un et un autre, ou alors ce Dieu horloger ? Est-ce que ce Dieu s'intéresse à nous ? Est-ce qu'il a un plan ? Est-ce que ce Dieu s'intéresse à nous ? Est-ce qu'il a un plan ? Est-ce qu'il a un projet pour nous ? Notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de Pierre, c'est le Dieu de Paul, c'est le Dieu incarné en Jésus. C'est le Dieu de Paul, c'est le Dieu incarné en Jésus-Christ. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui s'intéresse à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Ce n'est pas un Dieu lointain, un Dieu étrange, mystérieux, mais c'est un Dieu présent, un Dieu proche, un Dieu qui nous aime, un Dieu de qui Jésus a dit « Il a tant aimé le monde ». De qui Jésus a dit « Il a tant aimé le monde ». Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque, vous, moi, l'individu, ait la vie éternelle. Alors vous voyez, quand on pose la question, est-ce que Dieu a un plan pour moi ? Une question qui semble peut-être très étrange, mais en réalité, en connaissant notre Dieu, cette question prend un sens. Ellen White écrit « Dieu a les yeux fixés sur ses enfants et il a un plan bien défini. » Pour qui ? Pour un, mais pas pour l'autre. Pour chacun d'eux. Un plan bien défini pour chacun d'eux. Donc Dieu avait un plan pour nos premiers parents, Adam et Ève, et le plan c'était qu'ils vivent éternellement, le bonheur éternel, l'épanouissement, la découverte de l'univers, la glorification du Créateur. Mais pour que ce plan s'accomplisse, il y a quelques conditions. Il y avait et il y a toujours quelques conditions. Vous voyez, c'est un peu comme si toujours quelques conditions. Vous voyez, c'est un peu comme si le plan de Dieu ce serait une autoroute. Prenons une image, une autoroute. Alors, vous voulez aller à Lyon et vous prenez l'autoroute Paris-Lyon. Et vous êtes sûr que si vous restez sur l'autoroute et vous suivez le trafic, vous irez à Lyon. Mais ça paraît simple, mais en réalité, il y a quand même quelques conditions. Il y a quand même quelques conditions. La première, c'est déjà de rester sur l'autoroute. Parce que à chaque sortie, vous pouvez quitter l'autoroute. Et vous quittez le plan de Dieu. À chaque sortie, on peut quitter l'autoroute. Vous pouvez sortir à Fontainebleau, vous pouvez sortir à Dijon, ou vous pourrez prendre la direction de Genève. Dans ce cas, vous n'arriverez pas à Lyon, même si vous êtes sur l'autoroute. Il faut donc maintenir la bonne direction. Ensuite, il faut respecter le code de la route. Il est clair que si vous allez beaucoup trop vite, à 200 à l'heure, vous risquez d'avoir votre voiture confisquée. Vous n'arriverez pas à Lyon. Donc respectez le code de la route. Adam et Ève, ils étaient sur la bonne autoroute, mais ils n'ont pas respecté le code de la route. Et l'humanité tout entière en a payé les conséquences. Vous voyez, ce qui s'est passé pour Adam et Ève peut se passer pour chacun d'entre nous. Il y avait un plan A pour Adam et Ève, mais ils sont sortis de l'autoroute, ils n'ont pas respecté le code. Alors Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a trouvé un plan B. Ils n'ont pas respecté le code. Alors Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a trouvé un plan B. Et la même chose, le plan B, la même chose pour nous. Le plan B, mais le plan B, ce n'est pas tout à fait le même itinéraire. On va arriver, on risque d'arriver au même endroit. Mais la route risque d'être plus difficile, plus tortueuse. Mais quand même, il y a un plan B, il y a certainement aussi un plan C. En libérant son peuple de l'esclavage, Dieu voulait qu'il devienne la lumière du monde. C'était le but de Dieu, c'était le projet de Dieu pour son peuple. Et puis, eh bien, le peuple a trouvé d'autres voies. Mais Dieu avait un projet aussi pour son peuple, pas seulement pour Adam et Ève. Il avait un projet aussi pour Joseph, pour Moïse, pour Daniel, pour Paul. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que Dieu a un projet pour moi, moi personnellement ? Oui, moi qui ne suis ni Paul, ni Adam et Ève, ni Moïse. Est-ce que Dieu a un projet pour moi ? Et alors surtout, cette question, elle est plus sensible encore lorsque les choses ne tournent pas rond. Vous voyez, parfois, on pense que la vie chrétienne, c'est une course qui part d'ici et qui va là, et ça file tout droit, on court, comme Albert, hein, quand tu étais jeune, tu courais vite, toi. On court très vite, vous voyez. Ah, ça me fait plaisir de voir Albert. J'ai un bon souvenir, Albert, quand on faisait la collecte d'automne à Montpellier, tu te souviens ? Et moi, j'aimais bien sortir avec Albert faire la collecte d'automne parce que quand on allait dans les cafés et autres, Albert était derrière moi et les gens me regardaient et ils regardaient Albert. Et alors, je disais, on passe pour la collecte. Alors, ils n'étaient pas intimidés parce que je leur disais, mais ils regardaient Albert et ils disaient, combien on peut vous donner ? Alors oui, revenons au plan de Dieu. Alors est-ce qu'on se dit, mais est-ce que c'est pour moi? Et puis quand ça tourne mal, quand j'ai des problèmes, quand je traverse des difficultés, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, il y a quantité de difficultés. Est-ce qu'il y a encore un plan de Dieu pour moi? Et souvent, des gens viennent me dire, mais est-ce que vous croyez que Dieu a un plan pour moi? Et des jeunes, souvent, est-ce que Dieu... Quel est le plan de Dieu pour moi? Est-ce qu'il y a un plan de Dieu pour moi quand tout va mal? Ben oui, il y a toujours le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'un jour, nous ayons la vie éternelle. C'est le but ultime. C'est qu'un jour, nous soyons épanouis pleinement. Mais quand ça va mal, comment est-ce que je peux interpréter cela? Eh bien, une chose qu'il faut se rappeler, c'est interpréter cela. Eh bien, une chose qu'il faut se rappeler, c'est que le plan de Dieu pour nous, il ne se vit pas, on n'est pas encore au paradis. Le plan de Dieu pour nous, il se vit souvent sur un champ de bataille. Oui, ce plan de Dieu, ce n'est pas quelque chose de neutre qui va s'accomplir tranquillement. En fait, dans l'accomplissement de ce plan de Dieu, il y a trois acteurs. Il y a Dieu, il y a moi, mais à ne jamais oublier, il y a aussi l'ennemi. L'ennemi qui va tout faire pour détruire le plan de Dieu, pour me faire douter. En réalité, le plan de Dieu, c'est faire le plan de Dieu pour me faire douter. En réalité, le plan de Dieu s'effectue sur un champ de bataille. Voyez par exemple Moïse, reprenons l'exemple de Moïse. Moïse échappe à la mort. Mais quand Moïse arrive, Dieu a un plan pour lui. Mais l'ennemi sait que Dieu a un plan pour lui. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi essaye de détruire Moïse. Dès son enfance, il est petit et on veut déjà le détruire. Pourquoi l'ennemi veut détruire Moïse? Pourquoi l'ennemi s'acharne sur Moïse? Parce que l'ennemi sait qu'il y a un plan de Dieu pour Moïse. Moïse va sauver son peuple. Un jour, Moïse sauvera son peuple et il faut le détruire avant qu'il sauve ce peuple. Regardez un autre exemple dans l'Écriture, celui de Joseph. Qu'est-ce qui se passe avec Joseph? Joseph va devenir le leader de sa famille, de sa tribu. Et Dieu a un plan pour lui. Joseph va sauver son peuple. Mais l'ennemi le sait aussi. Et l'ennemi s'acharne sur Joseph. Il est vendu comme esclave, trahi par ses frères. Il va en prison. Voyez, le plan de Dieu ne s'effectue pas dans un contexte de calme et de bonheur parfait. Le plan de Dieu s'effectue sur un champ de bataille. Et puis, bien sûr, on peut parler de Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Jésus, le sauveur du monde. L'ennemi le sait qu'il est le sauveur du monde. Et Jésus à la naissance. Jésus, le sauveur du monde. L'ennemi le sait qu'il est le sauveur du monde. Et Jésus à la naissance. Que va-t-il se passer à la naissance? Hérode veut l'éliminer parce que l'ennemi veut éliminer le Fils de Dieu. Parce que l'ennemi a détecté, l'ennemi sait le Fils de Dieu. Parce que l'ennemi a détecté, l'ennemi sait qu'il est venu pour sauver son peuple. Alors, quand on doit passer les moments difficiles, des périodes de crise, etc., ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus de plan pour nous. Au contraire, nous sommes là au cœur du combat. Vous savez, Dieu aura le dernier mot. C'est dans le livre Samuel qui est écrit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Il gardera le pas de ses bien-aimés. » Oui, Dieu ne nous abandonne pas. Et alors la tentation lorsque tout va mal, c'est la tentation du peuple d'Israël dans le désert. « Retournons en Égypte. » Puisque le plan de Dieu semble ne pas se réaliser, quelle est l'alternative? On n'arrivera jamais à la terre promise, retournons en Égypte. Et quelle folie! Imaginez ces esclaves libérés qui ont causé tant de mal au peuple égyptien. retourner en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils s'imaginaient ? Être reçus comme des à bras ouverts, bienvenue, bienvenue, alors que les Égyptiens comptaient peut-être encore leur mort. Retournons en Égypte, c'est là qu'est notre avenir. Le plan de Dieu pour eux n'était pas l'Égypte, c'était la terre promise, là où coule le lait et le miel. Oui, Dieu intervient dans notre vie. Lorsque tout va mal, n'écoutons pas ses mensonges. Il ne faut pas retourner en Égypte, il faut continuer. Il faut traverser ces moments difficiles en sachant que Dieu est là à nos côtés et que c'est une question de temps. À la fin, il y a l'éternité. Et puis ici, évidemment, il y a d'autres personnes, d'autres qui vont dire que quand même, cette histoire de plan de Dieu, là encore, on reconnaît que pour certaines personnes, Moïse, etc., dans la Bible, mais pour moi qui suis si petit, mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec moi ? Regardez, qu'est-ce que je suis ? Je n'ai pas fait peut-être les universités, je ne suis pas riche et rien du tout. Alors pourquoi dire que Dieu a un plan, le grand Dieu a un plan pour moi qui suis si petit ? Alors imaginez maintenant Marie, la jeune Marie à Nazareth. Est-ce qu'elle était grande, la jeune Marie ? En plus, elle va attendre un enfant. Elle n'est pas encore mariée. En plus, elle va attendre un enfant. Elle n'est pas encore mariée. Imaginez Marie qui se présente devant les anciens de la ville de Nazareth et qui dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai une annonce à faire. Dieu a un plan pour moi. Imaginez la tête des anciens. Toi, Marie, toi, mais où on est là ? Oui, Dieu a un plan pour moi, mais attendez, ce n'est pas fini. Je vais donner naissance au sauveur du monde. Je crois qu'on aurait appelé police secours ou on aurait dit à pauvre Marie, ça allait déjà pas très bien, mais alors là, c'est la fin. Et pourtant, Dieu avait un plan pour la petite Marie du petit village de Nazareth. Et c'était le plan le plus merveilleux. Donner naissance au sauveur du monde, à Jésus. Elle était rien, rien au sauveur du monde, à Jésus. Elle était rien, rien. Jésus aurait pu choisir une fille, une princesse. Il aurait pu choisir une reine, une impératrice pour naître. Il a choisi la plus modeste, à Nazareth. Et puis ensuite, bien sûr, on peut imaginer maintenant Marie-Madeleine, une prostituée qui suit un groupe de gens là un peu bizarres. Imaginez que Marie-Madeleine ait dit à ceux qui l'écoutaient, qui daignaient l'écouter, Dieu a un plan pour moi. Un jour, dans 2000 ans, on parlera de moi dans l'église. Un jour, dans 2000 ans, on parlera de moi dans l'église de Damary-les-Lys. D'abord, ils auraient dit, où c'est Damary-les-Lys ? Mais il a dit, mais toi, t'es fini, t'es au bas de l'échelle. T'es tout en bas de l'échelle. T'as aucun avenir. Alors, commence pas à rêver, ça, c'est des folies, ça ne tient pas debout. Rien, tu n'es rien, tu vas disparaître, on va même pas savoir où tu es enterré. Tu comptes pour rien. Mais Marie-Madeleine, on en parle. Et Dieu avait un plan pour Marie-Madeleine. Elle n'était pas trop petite et on peut multiplier les exemples. Matthieu, la même chose. Pierre, mais qui étaient-ils, tous ces gens ? Qui étaient-ils à comparer des empereurs, à comparer des officiers, à comparer de la noblesse de Jérusalem, à comparer des grands docteurs ? Qui étaient-ils ? Rien. Et pourtant, Dieu avait un plan pour eux, comme il a un plan, comme il a un projet pour chacun d'entre nous. C'est encore Ellen White qui écrit « Dieu voit les possibilités de chaque être humain. Nous sommes là pour un but. » Mais nous ne sommes pas là par hasard. On veut nous faire croire que nous sommes là par hasard. Vous savez, si vous écoutez les voix de votre environnement, disons les voix du monde, entre guillemets, c'est pas le monde. Le monde ne va pas vous dire que Dieu a un plan pour vous. Le monde ne va pas nous dire que nous sommes un peuple spécial parce que nous croyons en Jésus-Christ. Au contraire, le monde va faire tout, naturellement, pour nous rabaisser. Pour faire de nous simplement des consommateurs, sans idéal, des gens qui sont prêts à suivre, des automates. Surtout pas, vous imaginez que Dieu aurait un plan pour vous. Quelle bêtise! Ellen White écrit, nous sommes là pour un but. Dieu nous a donné son plan, son projet, son plan, pour notre vie. Et il souhaite que nous atteignions quoi? Alors il souhaite que nous atteignions quoi? Et elle s'adresse à qui? Elle ne s'adresse pas à des ministres, à des académiciens, etc. S'adresse aux gens de son époque, de l'Église. Et qu'est-ce qu'elle dit? Que nous atteignions quoi? Le plus haut niveau de développement. Vous voyez, le plus haut niveau de développement. Pour ça, quand on suit Dieu, on a des promesses extraordinaires qui peuvent changer notre vie. Alors maintenant, vous voyez, en fin de compte, après tout ce que j'ai dit, j'arrive à la conclusion en disant, mais après tout, il ne faut pas trop passer de temps en se posant la question, quel est le plan de Dieu pour moi? Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et nous savons qu'il fera pour le mieux. Par contre, la question que nous devons nous poser, c'est, suis-je dans le plan de Dieu? Est-ce que je demeure plutôt dans le plan de Dieu? Le plan de Dieu est là, il est pour moi. La question c'est, est-ce que je demeure? Est-ce que je demeure sur l'autoroute ou est-ce que j'ai pris une voie de sortie? Est-ce que j'ai envie de sortir de l'autoroute et manquer mon but, ma direction? Vous voyez, la question c'est comment demeurer dans le plan de Dieu? Et ça, c'est la vraie question. Alors reprenons l'exemple de Noé, Joseph, Moïse, Daniel, Pierre et bien sûr Jésus. Jésus qui, quelques heures avant son martyre, avant son arrestation, Jésus qui combat, qui résiste et finalement qui finit par s'en remettre à Dieu avec confiance. Que ta volonté soit faite et non pas ma volonté. Vous voyez, le plan de Jésus, le plan de Dieu pour Jésus est là, il est tout fait, il va conduire à la croix. Et Jésus le sent, mais il a envie de sortir, il a envie de trouver autre chose. Et à un moment donné, il accepte. Il accepte le plan de Dieu pour lui. C'est la même chose pour nous, quelles que soient les situations qu'on doit traverser. Ayons foi, Dieu a un plan pour nous. Et comment pouvons-nous rester dans ce plan? En lui restant fidèles, en demeurant fidèles, en gardant la foi, en suivant ses principes, en obéissant. Ellen White encore qui écrit au sujet de Joseph, ayant été fidèle, c'est vraiment le mot qu'il faut souligner, ayant été fidèle dans chacune des étapes de sa vie, que ces étapes soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient tristes, qu'elles soient pleines de douleurs, de souffrances, ce sont les étapes de notre vie. Il est resté fidèle dans chacune des étapes de sa vie, de la plus humble, esclave, à la plus élevée, premier ministre de Pharaon. Il pouvait maintenant occuper les plus hautes fonctions. Vous voyez, c'est la fidélité qui fait la différence. Et cela fait écho aux paroles de Jésus lorsqu'il reçoit les sauvés, les élus. Il leur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est bien. Tu es resté dans le plan de Dieu. Et il le dit, tu as été fidèle. Dans les petites choses, je te confierai beaucoup. Alors, frères et sœurs, chers amis, voyez, par rapport à notre avenir, par rapport à la question, est-ce que Dieu a un plan pour nous? Soyons en paix, soyons vigilant, Dieu veille sur nous, il nous guide, il a son plan, Dieu veille sur nous.